Sur le bac, la bourse ou la vie. Il y avait une fois à Paris trois artistes sincères. L'un était poète et voulait dire des choses si justes dans des vers brûlés du feu juvénal qu'il ne les disait pas. L'autre était peintre, mais ne voulait ni servir l'historiette, ni peindre la nature morte dans un siècle moribond. Il se gardait bien de travailler et philosophait sur la peinture pour n'avoir à subir ni l'admiration des sots, ni l'encouragement du pouvoir. Le troisième était musicien, mais comme en même temps il était fier, il ne mettait en musique aucun cantate, aucun vaudeville, et laissait la popularité des carrefours à l'arrogance du beau du noir. Est-ce un conte que j'entreprends ? Non ! Vous le verrez à l'amertume des détails. Est-ce une simple histoire ? Non, car un quatrième artiste, M. Louis Rambaud, un poète, vient d'enjoliver de son humour, dans un livre solide et profond, les aventures de ces trois jeunes hommes, sous le titre de « Voyage de M. Martin à la recherche de la vie ». Ce voyage, tout le monde veut l'entreprendre à l'heure où nous sommes. On étouffe dans les mensonges de pierre de ce Paris fantastique. On meurt dans l'activité malsaine d'une société qui n'a plus d'idéal et qu'on a bêti à force de fausses lois et de faux orgueils. Ce que certains hommes dénoncent comme la turbulence des vieux partis, ce que M. Guéroux croit être l'impatience des moustiques, ce qui donne l'appétit des feuilles nouvelles, ce qui est le succès des journaux hardis, c'est la révolte contre le fardeau d'une malaria trop prolongée, c'est la recherche de l'air, de l'esprit, de la vie, enfin. Mettez-nous donc en route avec ces trois artistes qui représentent trois aspirations de l'âme. Et voyons s'il est possible de la trouver, cette vie nouvelle, ou plutôt cette vie éternelle, dans le grand phalanstère que la centralisation communiste est en train de nous arranger. L'heure est critique, le piège est dressé, on nous tend la main pour nous demander le loyer coûteux de cette féride souffrance qui trompe et emprisonne notre misère morale. Faut-il payer toujours, ou bien faut-il refuser le renouvellement du trite même condition ? On nous demande la bourse, et nous nous demandons la vie. Qui cédera ? Martin, le poète, Jacques, le peintre, et Laerte, le musicien, s'ennuyaient donc à périr quand ils prirent un jour leur bâton de voyage pour chercher la vie humaine à travers le monde. Ils n'allèrent pas bien loin sans se heurter à des désenchantements. Ils traversèrent des foules aveugles, mouvantes, corrompues, c'est-à-dire ignorantes, qu'un pétard jetait dans l'extase, qu'un tambour endormait dans l'ivresse. Ils voulurent secouer ce troupeau, mais les moutons agglomérés sont dangereux comme les loups isolés. Ils ne bordent pas, ils étouffent. Nos trois artistes, plus attristés, s'éloignèrent des rires stupides, des gaietés égoïstes de la foule. Et comme il pleuvait, ils entrèrent dans un temple sans dieu et virent des hommes hurler, gesticuler, se montrer le poing autour d'une corbeille sans fleurs. Ils s'approchèrent tout à le temps de ces hommes, leur demandant la vie. Les autres leur répondirent qu'ils étaient à la bourse pour trafiquer, vendre, acheter, et non pas pour vivre. Une autre fois, ils pénétrèrent dans le sanctuaire de la justice. On y distribuait la prison et la mort après des paroles nombreuses de gens qui s'essoufflaient pour user leur existence en mots sonores ou pour le thésauriser en espèces sonnantes. Mais vivre, penser, aimer, on s'occupait guère de ces choses accessoires. Après avoir vainement erré entre les casernes, les églises et les palais des capitales, notre voyageur voulut pénétrer la province. C'est là que la vie douce, que la vie du cœur s'est réfugiée. Et tout d'abord, pour être bien enseigné, ils s'adressèrent à un jeune homme. Heureusement pour eux, celui-là n'était point bête. Il leur expliqua l'ennui, la vanité et la nullité de l'existence provinciale, telle que la centralisation excessive l'a faite. « Oh, les jeunes gens d'ici, leur dit-il, sont pour la plupart quelques petites besognes qui les empêchent de s'ennuyer trop. Pour le reste du jour, ils le passent à jouer aux cartes et attendent ainsi l'heure de se marier. D'autres ne disent pas un seul mot, sans étirer leurs bras dans les manches de leurs habits et poussent, ajoutés par là, à la valeur de leurs propos et à leur valeur propre. D'autres entretiennent de leurs amours d'une façon avantageuse pour eux. Ceux qui les écoutent affectent d'y prendre plaisir. Oh, je ne parle que des meilleurs. Il en est sans doute de plus intelligents qui emploieraient mieux leur temps s'ils pouvaient, mais ceux-là sont écrasés par les rudes travaux qu'il leur faut faire pour vivre. Nos trois rêveurs essayèrent de tirer une étincelle de la province, mais toutes les étincelles étaient en route pour Paris. Ils allèrent aux champs et au lieu d'entendre les paysans vanter la joie de marcher libre à côté du sillon gorgé d'épis, ils entendirent se féliciter de ce que le pouvoir était fort. Et peut-être bien qu'en prolongeant leur séjour, ils les eussent vu aller embrigader aux élections, fiers d'être soumis, satisfaits de peser de la lourdeur du plus grand nombre dans le plateau du pays. Mais de la vie, ils ne savaient rien, et ne voulaient rien savoir. Ça et là, les voyageurs rencontraient des hommes véritables, bien reconnaissables à leurs blessures, à leurs flétrissures, à leurs découragements. Ils en trouvèrent un qui avait eu la vocation de vivre botaniste, d'étudier les plantes et qui, forcé tout jeune de faire son droit, d'entrer dans un bureau, n'avait jamais vécu de la vie pour laquelle il était né. Ses fonctions l'avaient absorbé, tiraillé, jusque dans les derniers replis de sa conscience. Juré, il s'était vu obligé ou d'acquitter un scélérat ou de le condamner à mort en détestant la guillotine. Citoyen, docile aux lois, il avait payé par suite de mutations, de successions, d'acquisitions, tant d'impôts que les trois quarts de son patrimoine y avaient passé. Exproprié, sans motif impérieux, il avait vu ses souvenirs en déroute, ses piétés domestiques, la vie de son âme éparpillée aux quatre vents. Il est vrai qu'on en misait si bien qu'il fut presque ruiné. Dénoncé, pris par mégarde pour un autre, il est arrêté comme suspect, relâché avec mauvaise grâce, et surveillé par la police qui a toujours peur que les innocents ne plaignent trop haut des injustices ouvertes. Il vient à Paris pour une société en commandite, mais il a le malheur de flâner autour de la colonne de Juillet ou de tout autre monument séditieux, un jour d'anniversaire. Alors on l'empoigne et comme il a un couteau dans sa poche et des antécédents d'arrestation qu'on lui a fait, il est vivement inquiété. Grâce au hasard, il échappe. Voilà comment un homme de bien et de savoir n'a pu vivre sa vie et mourra découragé. Martin et ses amis se heurtèrent à des patriotes qui ne parlent que de la guerre, qui veulent tout massacrer en Europe pour empêcher les Allemands d'être aussi Allemands qu'ils ont le droit de l'être, et pour ruiner les Anglais, que notre activité commerciale ne dépasse pas. Bousculons, coupons, brisons, cançons, ravageons, conquérons, saccageons, et enfin cueillons des lauriers, car c'est là seulement qu'est la vie. Et sur ce refrain, les conscrits défilent, les drapeaux fraternels s'ouvrent au vent, les enfants crient d'enthousiasme, les femmes pleurent d'émotion. On fait l'apothéose de la mort et du pillage. Les générations civilisées dansent comme des sauvages de la sonde autour du trophée arrosé de sang et bâti d'ossements humains. Ce n'est pas gai. La plainte d'un amoureux naïf et sincère, qui a lu les poètes et qui les croit sur parole, est-elle plus drôle? Le pauvre fou cherche la foi, la candeur, et veut aimer, être aimé. On le raille, on le bafoue, on en fera un crétin ou un débauché. À propos de crétins, le voyageur arrive au pays des administrés. Les administrés ne pensent plus, ne travaillent plus, ne trafiquent plus, ne vivent plus. C'est l'État qui fait tout, qui remplace tout, qui supplée à tout. Ah, le beau pays! On fait les rues que l'on veut, au prix que l'on veut, avec le désintéressement que l'on veut. Et comme l'État tient tous les journaux, il n'y a pas un moustique qui s'avise de piquer le moindre personnage de cette capitale du régime officiel. Ainsi, poursuivant leur voyage, nos artistes cherchent la vie et ne la trouvent partout que l'étouffement. La nature elle-même, asservie par des expropriateurs féroces, n'est plus pittoresque quand on lui permet de l'être. L'autorité a tout marqué, tout limité, tout contrôlé, tout gâté. Plus d'imprévus dans le monde, plus d'individualité dans les foules. Les poitrines vivent d'une vie automatique que l'on distribue, mais que nul n'est libre de choisir. C'est la réglementation de l'agonie. Pourtant, les voyageurs s'arrêtent au bord de l'océan. Immensité est la dernière consolation de ce que la grandeur puérile de notre société écrase. Ils trouvent un débris de vieux partis, de vieilles croyances, une épave, une âme que la mer a purifiée, que la solitude a rajeunie, et ces désespérés du présent s'entretiennent avec ce vaincu des espérances immortelles, de la liberté, toujours défaite, mais toujours invincible. Si blessés qu'ils soient par le désenchantement et le dégoût, ils aspirent l'air lointain, saturé des vapeurs salubres de l'océan, qui vient sur eux du fond d'une Amérique inconnue. Ils gardent leur colère, leur tristesse, mais ils jettent leur cœur en avant. Ils seront, s'il le faut, les citoyens des siècles à venir, mais ils lutteront contre le marasme, la honte, la trivialité, le despotisme mesquin de la société actuelle. Ces trois voyageurs revenus, tout le monde veut les suivre de nouveau et les exhorte à repartir. Les journaux qui paraissent, on les arrache aux vendeurs comme des itinéraires. Attendu, il ne suffit pas à Rochefort d'être une conscience ferme et d'un homme d'esprit pour réussir. C'est parce qu'on se dit que la lanterne peut éclairer le chemin qu'on court à sa clarté. La vie n'est nulle part encore, mais on l'entend sourde dans les journaux qui n'ont jamais abdiqué leur indépendance pour une livrée ou pour une coterie. C'est là un fait éclatant, un symptôme. Le pouvoir a senti venir le flot et propose la loi de la presse comme une écluse. L'écluse est faite, le flot est venu. Il est logique de le laisser passer. Malheur aux entrepreneurs de barques et de nacelles dont les petits bateaux ne vont pas sur l'eau, qui s'embrennent à eux seuls, mais qui n'accusent pas de leur naufrage les esquifs aventureux lancés déjà à la mer. La tempête est pour tout le monde. Le port est caché dans la brume, mais le vent est dans les voiles. Et quand les rameurs sont solides, ils finissent par fatiguer le mauvais vouloir des flots. Voilà pourquoi il faut applaudir sans jalousie à tous les journaux qui naissent, à tous les efforts honnêtes, car ils multiplient le goût de la lutte, le besoin de la liberté, et ils affirment la nécessité de la vie.